VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Villon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 27 avril 2023. Au Soudan, le cessez-le-feu de 3 jours expire ce jeudi à minuit. Des tractations sont en cours pour prolonger la trêve alors que les combats se poursuivent.
Ça fait 25 ans que je suis à Khartoum et c'est la première fois que je quitte Khartoum avec un cœur serré.
Une exfiltrée nigérienne de l'enfer des combats à Khartoum. Reportage à suivre de notre correspondant à Niamey dans la partie magazine. Le Mali et l'Algérie affirment leur volonté de relancer l'accord de paix de 2015. Au Kenya, un autre pasteur est accusé du meurtre de masse de ses fidèles après l'horreur de Chakaola. Washington, Moscou et l'Union européenne se disent globalement satisfaits de la tenue de l'entretien entre Xi Jinping et Volodymyr Zelensky. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Pour commencer, un regard sur l'actualité internationale. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a salué aujourd'hui devant le Congrès à Washington les partenariats économiques, culturels et militaires liant son pays aux États-Unis et souligné l'unité des deux puissances face à Pyongyang. Le discours du président asiatique était la dernière étape d'une visite d'État à Washington qui a conduit les États-Unis et la Corée du Sud à renforcer considérablement leur coopération en matière de défense, y compris nucléaire. Cet accord baptisé Déclaration de Washington doit permettre aux États-Unis de rassurer leur allié sud-coréen face à la Corée du Nord qui a procédé cette année à un niveau record de tirs de missiles balistiques. L'entretien téléphonique mercredi entre le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a fait réagir de nombreux pays et organisations à travers le monde. Mouamadou Mfa fait le point.
La Maison-Blanche y a vu une bonne chose tout en disant ignorer si cela peut déboucher sur une initiative, une proposition ou un plan de paix sérieux. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a salué une première étape importante tout en disant espérer que la Chine joue un rôle pour convaincre la Russie d'arrêter son agression. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a salué l'entretien téléphonique, précisant cependant que cela ne change rien au fait que la Chine n'a pas été en mesure de condamner l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. La Russie a dit prendre acte de la volonté de la Chine de s'efforcer de mettre en place un processus de négociation. Nous sommes prêts à saluer tout ce qui peut permettre de se rapprocher de la fin du conflit en Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a aussitôt ajouté qu'une telle initiative devait aboutir à la réalisation par la Russie des objectifs qu'elle s'est fixés.
Les membres de l'OTAN et leurs partenaires ont livré la quasi-totalité des véhicules de combat promis à l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Cela signifie plus de 1550 véhicules blindés, 230 chars et d'autres équipements de vastes quantités de munitions, a détaillé Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse au siège de l'Alliance à Bruxelles. Des gardes frontières turcs torturent et ouvrent le feu sur des Syriens qui tentent de passer la frontière, faisant parmi eux des morts, a accusé aujourd'hui l'ONG Human Rights Watch, appelant Ankara à enquêter sur ces abus. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 12 Syriens ont été tués et 20 autres blessés par des tirs de gardes frontières turcs depuis le début de l'année.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique maintenant, au Soudan, 13e jour de combat meurtrier opposant des paramilitaires à l'armée. Malgré le cessez-le-feu, la capitale Khartoum et la région du Darfour sont désormais en proie au chaos des bombes. Claire Morin-Gibou.
Des avions militaires survolent la banlieue nord de Khartoum où les troupes des deux généraux échangent des tirs à la mitrailleuse et à l'arme lourde malgré la trêve de 72 heures conclue sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite qui a débuté mardi. Le général Bourhan a dit accepter de discuter d'une prolongation de la trêve de 72 heures qui doit s'achever aujourd'hui à minuit et a été globalement peu respectée. Les paramilitaires n'ont, de leur côté, pas commenté cette initiative régionale. Hier soir, l'armée a annoncé avoir accepté d'envoyer un représentant à Djouba, la capitale du Soudan du Sud voisin, pour des pourparlers avec les forces de soutien rapide à l'initiative de l'IGAD, bloc régional d'Afrique de l'Est. Selon le ministère égyptien des Affaires étrangères, plus de 14 000 réfugiés soudanais ont franchi aujourd'hui la frontière. Au total, plus de 16 000 étrangers sont entrés en Égypte voisine depuis que le conflit a éclaté, dont 2 000 ressortissants de 50 pays.
Un dirigeant du parti du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Girma Yeshitila, chef du parti dans la région de la Mara, récemment en proie à des troubles, a été assassiné, a annoncé aujourd'hui M. Abiy lui-même dans un communiqué. Girma Yeshitila était l'un des 45 membres du comité exécutif du tout-puissant parti de la prospérité qui gouverne l'Éthiopie. Le premier ministre a laissé entendre qu'il avait été tué par balle et évoque un acte honteux et brutal commis sur un enfant du coin par des extrémistes violents. Le Mali et l'Algérie veulent relancer l'accord de paix entre l'ex-rébellion Touareg et le gouvernement malien. Il a été signé en 2015, mais est aujourd'hui mal en point, faisant craindre une reprise des hostilités. Les détails avec Nani Talani.
Nous avons examiné de manière très précise, très rigoureuse, les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive à travers un processus politique qui serait mise à l'abri des turbulences conjoncturelles. C'est ce qu'a déclaré Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, à l'issue d'une visite à Bamako où il a rencontré le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, selon un communiqué de la présidence malienne. La coordination des mouvements de la Zawad a réagi mercredi, affirmant qu'elle ne sera jamais comptable ni complice d'une mise en œuvre sélective des dispositions de l'accord prônées par certains et encouragé par le silence complice de la médiation, selon Ag Mohamed Almou, un porte-parole de ce mouvement. Début avril, l'ex-rébellion Touareg a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de construire un avenir commun avec Bamako. En décembre, le Mali a annoncé suspendre sa participation à la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, qui prévoit des mesures de décentralisation et l'intégration des anciens rebelles dans l'armée nationale. Cet accord n'a presque jamais été mise en œuvre.
La junte malienne a réceptionné aujourd'hui un rare lot d'équipements militaires de la Chine, exclusivement acquis sur le budget militaire, a indiqué le ministre de la Défense, Sadio Camara, lors d'une cérémonie officielle au camp de Kati, près de Bamako. Au Nigeria, 14 personnes, dont un commandant de l'armée, ont été tuées par des hommes armés dans l'attaque d'un village situé dans le centre du pays. L'attaque a eu lieu mardi dans le district de Apa, dans l'état de Benue, où des affrontements et représailles sont monnaie courante entre communautés d'éleveurs et agriculteurs. Au Kenya, un deuxième pasteur accusé de meurtre et de masse de ses fidèles est arrêté. Ce nouveau scandale religieux intervient quelques jours après la mort de près d'une centaine d'adeptes d'une autre secte religieuse. Les autorités n'ont pas établi de lien entre les deux affaires. Alexandrine Lognon.
Ézéchiel Odero, un des pasteurs les plus influents du Kenya, a été arrêté suite à la découverte de plus de 100 personnes enfermées dans les locaux de son église. L'établissement a été fermé, les personnes évacuées et le pasteur fait l'objet de poursuites pénales liées au meurtre de masse de ses fidèles, d'après un communiqué du ministre de l'Intérieur. Cette arrestation intervient alors que les autorités ont annoncé des mesures contre les cultes après la découverte de 98 corps d'adeptes d'une autre secte. Les victimes, dont une majorité d'enfants, sont mortes après avoir suivi les préceptes du pasteur Paul Mackenzie Ntenge qui prêchait un jeûne extrême pour rencontrer Jésus. Au moins 22 personnes ont été arrêtées. Les recherches de fosses communes se poursuivent dans la forêt de Chakarola. La police n'a fait aucun lien entre l'arrestation d'Ézéchiel Odero et Paul Mackenzie Ntenge, tous les deux en détention.
Le gouvernement libérien a répondu à des critiques qualifiées d'erronées de l'ambassadeur américain qui a accusé les parlementaires du pays de beurrer leur propre pain pendant que, selon lui, les services sociaux du pays comme les hôpitaux et l'état civil sont sous-financés. L'ambassadeur américain Michael McCarthy a sévèrement critiqué les partenaires libériens, les parlementaires libériens dans un communiqué lundi, les accusant de plumer leur propre nid, de ne pas consacrer suffisamment de fonds à la santé et à l'éducation et de laisser les populations rurales dans la pauvreté. Et puis, l'UNICEF, mais aussi les ONG CARE et Oxfam ont fait savoir lors d'une conférence de presse commune aujourd'hui à Paris qu'une personne meurt de faim toutes les 36 secondes entre Éthiopie, Kenya et Somalie, alors que 18,6 millions de personnes sont en sécurité alimentaire grave dans le Sahel.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique.
présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Les responsables des agences de statistiques des pays de la CEDEAO sont en discussion à Lomé cette semaine pour discuter du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo font partie des 7 pays déjà bénéficiaires de l'initiative qui va intégrer de nouveaux membres. Le projet FASO soutient la production de données statistiques de qualité utile pour les programmes de développement et les stratégies nationales. Lors du sommet Transform Africa Victoria Falls au Zimbabwe, qui se referme ce vendredi, le Fonds africain de développement, la Banque africaine de développement et l'Alliance Smart Africa ont signé un accord pour harmoniser les politiques de e-commerce dans 10 pays africains. Un des pans du projet vise à soutenir le renforcement des capacités et des cadres sensibles au genre. Les pays francophones concernés sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la République du Congo et la RDC.
Place maintenant au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Suite des matchs de la conférence NIL de la Basketball Africa League saison 3.
Oui, il y avait deux matchs au programme ce jeudi. Dans le premier, les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club se sont inclinés 75-68 devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Toujours ce soir, les Angolais de Petro de Luanda affrontent les Ougandais de City Oilers. Hier, en match inaugural de cette conférence NIL, le club hôte Al Ahly du Caire et les Mozambicains de Ferroviaro d'Abera ont donné le ton. Victoire des hôtes égyptiens 92-74. Retour sur les temps forts de ce match d'ouverture avec Yacouba Ouédraogo.
Al Ahly inscrit les premiers points de la rencontre, menant 4-0. Mais Nour Mamadé de Beira réussit à ramener son équipe dans le jeu en plantant 3 points grâce à ce shoot dans le coin. À 6 minutes de la fin de la première mi-temps et mené de 12 points, Nour Mamadé du Mozambique trouve Mugwambe qui manque son tir, mais il se rattrape sur ce rebond offensif. Plus qu'une minute à jouer avant la mi-temps, l'Égyptien Tarek se transforme en maître d'orchestre de cette attaque à 3, conclu par un tir réussi à 3 points de Camara. Al Ahly renforce son avance sur Ferroviaro d'Abeira. Mené de 18 points dans le troisième quart-temps, Perry de Beira inscrit ce panier pour son équipe et bénéficie d'une faute sur l'action. Alors que Beira est toujours à la traîne dans le dernier quart-temps, Abo El Nasr trouve le chemin du panier par 2 fois. Les Égyptiens mènent de 20 points. La dernière action est une passe d'Orabi d'Égypte à Camara qui tente un shoot à 3 points mais passe à côté. Al Ahly remporte la partie devant son public avec 18 points d'écart face à Ferroviaro d'Abeira dans ce match inaugural de la conférence du Nil.
Basketball toujours, mais cette fois-ci en NBA avec les playoffs qui ne cessent de surprendre.
Oui, énorme surprise. La nuit dernière, Miami de l'intenable Jimmy Butler a éliminé Milwaukee de Giannis Antetokounmpo. 2 jours après son exceptionnelle performance à 56 points, l'ailier en a planté cette fois 42 pour permettre au Heat de l'emporter 128-126 après prolongation. Miami devient ainsi la 6e équipe de l'histoire, tête de série numéro 8, à faire tomber le numéro 1. Le Heat rallie ainsi les demi-finales de conférence Est et va y affronter les New York Knicks qui se sont débarrassés des Cleveland Cavaliers, 106-95. Un affrontement au parfum des grandes batailles des années 90. Cela faisait 10 ans que New York n'avait pas franchi le premier tour. De son côté, Golden State, poussé dans ses retranchements face aux Kings, a fait parler son expérience de champion pour remporter un précieux succès à Sacramento, 123-116. Stephen Curry, 31 points, 8 passes décisives, a encore été prépondérant. Son panier avec la faute à 22 secondes du terme éteignant les espoirs de remontée adverse. Les Warriors mènent 3-2 en attendant le prochain match demain vendredi. Enfin, Memphis, contraint de s'imposer face aux Lakers sous peine d'élimination, y est parvenu à domicile 116-99. Elle reste en ballotage favorable 3-2 s'il s'impose ce samedi. Le champion 2020 accédera en demi-finale de conférence.
Page des sports VOA Afrique, signée Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, une semaine après le massacre de Karma, à une quinzaine de kilomètres de Ouaigouya, dans le nord du pays, le gouvernement a réagi dans un communiqué ce jeudi. Le gouvernement burkinabé dit être préoccupé et a condamné cette tuerie, qualifiée d'acte ignoble et barbare. À Ouagadougou, c'est l'émotion au sein des populations. Les analystes pensent que le gouvernement joue la carte de la prudence et de la réserve. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le gouvernement, dans son communiqué, n'a pas dressé de bilan, mais a condamné les tueries de Karma, qui auraient fait plus d'une centaine de morts selon les ressortissants et rescapés, et une soixantaine selon le premier bilan du procureur de Ouaigouya. L'attaque a eu lieu jeudi dernier, il y a exactement une semaine. Les réactions à Ouagadougou. Issa Kabori, magasinier.
C'est quand même triste, c'est triste. En tant qu'un être humain, c'est vraiment touchant. Et c'est déplorable d'attendre que un frère même est décédé. Et n'en parlons pas plus de 100 morts. C'est quand même touchant et c'est regrettant. Si le gouvernement peut encore faire encore plus vraiment pallier à cela, ça allait vraiment aider.
Jean Ouidraogo, étudiant.
On a appris cette triste nouvelle. Bon, c'était un peu difficile à croire que ce genre de situation puisse se produire au sein du pays. Mais quand même, bon, c'est comme on le dit, hein. Pendant des moments de guerre, vous ne pouvez pas réussir sans que des gens ne meurent. Ça, c'est une obligation et c'est une probabilité. Et voilà. Parce que moi-même, j'ai perdu mon cousin lors de l'attaque à Ouaigouya.
Augustin Zalé est aussi étudiant en première année d'architecture.
Il arrive souvent que des civils s'arment en tenue de soldats pour aller attaquer la population et puis dire que c'est l'armée qui est venue. Donc, je pense que c'est ce que le président a dit, c'est la perfidie et puis ça peut arriver.
Le gouvernement a expliqué dans son communiqué que des populations civiles de Karma ont été la cible d'hommes armés habillés en tenue des forces armées burkinabè. Ils auraient ainsi massacré et pillé les biens de paisibles habitants du village de Karma et blessé plusieurs autres. Pazien, analyste politique.
Le gouvernement aborde la question avec beaucoup de réserve et beaucoup d'attention. Le gouvernement joue la carte de la prudence en y allant tout doucement. Parce que le gouvernement n'affirme pas que ce sont des soldats burkinabés. Le gouvernement n'affirme pas non plus que ce ne le sont pas, parce que le gouvernement annonce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Et cela arrive aussi, je dirais, une semaine après que des voix se soient élevées au niveau du Burkina Faso pour dénoncer ce drame, jusqu'au niveau international. C'est vrai qu'aujourd'hui, le seul port de la tenue burkinabé ne garantit pas que ce sont des soldats burkinabés. Maintenant, le port de cette tenue-là aussi peut créer des présomptions au sein de nos forces. C'est en cela que nous comprenons l'attitude du gouvernement qui tend justement à aborder la question avec beaucoup de réserve.
Le gouvernement a confirmé qu'une enquête a été ouverte par le procureur de Ouaigouya et il rassure sur de très près l'évolution de l'enquête. Le gouvernement a aussi rassuré qu'il fera absolument tout ce qui relève de ses prérogatives pour la manifestation totale de la vérité dans ce drame. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
42 ressortissants nigériens qui vivaient à Khartoum sont rentrés hier à Niamey, fuyant les affrontements au Soudan. Ils ont été évacués par des forces spéciales françaises et ont été accueillis par les autorités du Niger. Le reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Madame Parizo Rabi travaillait à l'école française internationale de Khartoum depuis une vingtaine d'années. Lorsqu'elle a foulé le sol nigérien hier soir, c'était comme une délivrance pour elle.
Ça fait un grand plaisir parce que c'est comme si on nous a sauvés d'un cauchemar, parce que de là où on est venu, c'est la catastrophe. Ça fait 25 ans que je suis à Khartoum et c'est la première fois que je quitte Khartoum avec un cœur serré. Quand ça a déclenché, c'était une surprise en plein Ramadan. Donc être chez soi, c'est vraiment un cadeau du ciel là.
C'est au consulat du Niger à Khartoum que les 42 Nigériens évacués se sont regroupés dans un premier temps pour ensuite regagner l'ambassade de France d'où ils devaient être exfiltrés. Une courte distance dont le vice-consul du Niger au Soudan se souviendra encore. Tahirou Bourema.
Nous étions sur le terrain, nous avions vu combien c'était dangereux, je dirais périlleux. L'ambassade de France, géographiquement, s'est située à peine à moins d'un kilomètre en tout cas de notre consulat. Mais je peux dire que c'était la distance la plus longue de ma vie. C'était avec des enfants, des filles d'à peine 3-4 ans. Et il pleuvait des balles. On a marché jusqu'à l'ambassade.
Une quarantaine d'autres Nigériens est encore bloquée au Soudan. Selon le ministre des Affaires étrangères, toutes les dispositions seront prises pour les rapatrier également. Assoumi Massaoudou.
Nous avons d'autres compatriotes aussi qui sont restés au Soudan. Nous avons une quarantaine des étudiants pour l'essentiel. Et nous sommes en train de travailler à les ramener eux aussi au Niger. Inch'Allah, cela se fera. Je voudrais donc souligner que notre volonté, notre détermination à faire en sorte que dans ces conditions-là, nos compatriotes soient non seulement sécurisés, mais ramenés en bonne santé dans notre pays.
Grâce donc à la France, le Niger a pu rapatrier une première vague de ses ressortissants au Soudan, une manifestation supplémentaire de la bonne coopération entre les deux pays, selon le diplomate français à Niamey, Sylvain Ité.
C'était une volonté de la ministre des Affaires étrangères française et du président de la République que de venir au secours de ces compatriotes nigériens en situation difficile. Donc pour moi, c'est un grand bonheur que de savoir que l'on a réussi la mission pour laquelle nous sommes présents ici et montrer également une fois de plus combien les relations entre le Niger et la France sont importantes et se traduisent également par des faits et par des actions aussi concrètes.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Nigeria, les autorités sont à la recherche d'un moyen pour mettre fin à la fuite des cerveaux qui frappe le secteur de la santé. Une proposition de loi visant à stopper ce départ des médecins se trouve devant le Parlement, mais elle suscite la colère des professionnels de la santé. Ce projet oblige les diplômés des facultés de médecine à pratiquer au moins 5 ans au Nigeria avant d'obtenir leur diplôme ou tenter de quitter le pays. Notre correspondant à Abuja nous en dit plus.
Dans les hôpitaux publics nigériens, il n'est pas rare d'observer l'absence de médecins qualifiés. Plusieurs dizaines d'entre eux ont fait leurs valises pour partir à l'étranger à la recherche d'emplois plus payés. Le pays perd ainsi une partie importante de ses agents de santé à cause de la fuite des cerveaux. Comment inverser cette tendance? C'est l'objectif de la proposition de loi qui se trouve devant le Parlement fédéral. Le député Ganoui Johnson, initiateur de la proposition de loi.
Après votre formation, oui, nous ne disons pas que vous ne pouvez pas partir à l'étranger pour chercher de l'argent. Mais si le gouvernement a subventionné vos frais de scolarité de montant allant de 40 000 à 150 000 naira, le moins que nous puissions obtenir de vous, c'est qu'après vos études, avant de vous remettre votre diplôme d'études supérieures en médecine, vous devez rendre service à la société pendant au moins 5 années.
Si ce projet de loi est adopté, les étudiants qui ont terminé leurs études de médecine dans les universités nigériennes devront travailler de façon ininterrompue pendant 5 ans dans le pays avant de recevoir leur diplôme. Les professionnels de santé critiquent cette initiative. Dr Michael Olariwaju, secrétaire général du syndicat des professionnels de la santé d'Abuja.
Le projet de loi n'a aucun sens car le gouvernement n'a pas fourni l'environnement nécessaire pour garder ses médecins. Donc, si vous voulez garder vos médecins, ce que demande notre syndicat d'abord et avant tout, équiper les hôpitaux, donnez-leur des équipements efficaces pour travailler avec ensuite, il faut augmenter leur rémunération.
Selon les statistiques fournies dans la proposition de loi, le Nigeria ne compte que 24 000 médecins agréés, soit moins de 10% du nombre nécessaire pour répondre à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. D'où la nécessité de trouver une solution à la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé. L'OMS recommande 600 patients pour un médecin, mais au Nigeria, c'est 5 000 patients pour un seul médecin. Les responsables de la santé affirment qu'au moins 13 609 médecins nigérians ont émigré, par exemple, vers le Royaume-Uni au cours des 8 dernières années. Emmanuel Agogo, expert en santé publique, est aussi d'accord que cette proposition de loi n'est pas la solution.
Ce projet de loi n'est certainement pas la solution à la crise. D'une part, nous ne produisons pas suffisamment de médecins et nous ne veillons pas à ce que le système de santé soit correctement financé. Donc, si vous voulez changer le système de santé et le rendre plus efficace, vous devez vous tourner vers d'autres pays qui ont fait des progrès dans ce domaine. Nous avons besoin d'un plan radical pour le système de santé au Nigeria.
En août 2022, en pleine pandémie de COVID-19, la centrale syndicale des travailleurs de la santé avait averti qu'un effondrement total du système de la santé était imminent dans le pays si des mesures urgentes ne sont pas prises pour lutter contre la fuite des cerveaux dans le secteur. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La Chine dit qu'elle enverra un émissaire pour la paix en Ukraine et dans d'autres pays et veut agir en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Le dirigeant chinois Xi Jinping et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont entretenus au téléphone mercredi. Un reportage de Saint-Lysen de la VOA, le récit est de Nanik Talani.
Au milieu des bombardements russes dans l'est de l'Ukraine, la Chine a surpris le monde avec cette annonce. La Chine a fait plusieurs annonces publiques mercredi, attirant l'attention sur son initiative diplomatique envers l'Ukraine et affirmant que le dirigeant chinois Xi Jinping s'était entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui avait demandé cet entretien. À Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a salué la nouvelle. Il a déclaré, je cite, il est important que le président Xi et les responsables de la République populaire de Chine s'imprègnent du point de vue ukrainien sur cette invasion illégale et non provoquée par la Russie. Pour sa part, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, affirme que Moscou voit un accord global avec l'approche de la Chine, mais le principal obstacle est ce qu'elle qualifie de demande irréaliste de Kiev. Xi Jinping s'est rendu à Moscou en mars. Pékin a refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et n'a pas exigé le retrait des troupes russes. La Chine a plutôt appelé à la retenue de toutes les parties, accusant l'OTAN de fomenter les combats. Ce qui laisse sceptique la plupart des experts en politique étrangère sur la capacité de la Chine à jouer le rôle de médiateur pour la paix. Michael Kimadj, de l'Université catholique d'Amérique, a déclaré à la VOA que la Chine ne peut nullement offrir un cadre diplomatique utile pour mettre fin à ce conflit.
Cela va jouer un grand rôle dans la reconstruction de l'Ukraine. C'est un grand acteur économique et c'est un pays majeur. Mais ce n'est pas comme si la Chine était pour le moment et dans un avenir prévisible une sorte d'alternative réaliste à l'un ou l'autre des acteurs dans la guerre elle-même.
Selon lui, il y a des facteurs économiques en jeu.
La Chine et l'Ukraine avaient une relation économique assez importante. Avant la guerre, je crois que la Chine était le plus grand partenaire commercial de l'Ukraine et la Chine a un réseau d'intérêts économiques dans la région. Vous savez, pas seulement en Ukraine, mais dans la région au sens large.
Par ailleurs, l'opposant russe en détention, Alexei Navalny, très critique de la guerre en Ukraine, a affirmé mercredi qu'il pourrait être condamné à la prison à perpétuité pour terrorisme. Les organisations de défense des droits de l'homme et les gouvernements occidentaux demandent sa libération, qualifiant d'absurde les accusations portées contre lui.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production.
Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.